Avec vous, Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous revenez, Pierre, sur les suites de la visite d'Emmanuel Macron en Russie et en Ukraine.
Oui, l'Élysée a rarement autant communiqué que depuis quelques jours, avant, pendant et après la visite d'Emmanuel Macron à Moscou et Kiev. Une communication en forme de déminage, car le terrain diplomatique est parsemé d'embûches que le président et futur candidat n'a pas envie de voir gêner son bilan. Il faut dire que son initiative a été accompagnée d'une vague de soupçons et de critiques, principalement dans le monde anglo-saxon, qu'un observateur américain comparait à l'ambiance du non-français à la guerre d'Irak en 2003, c'est dire. Le président a beau avoir coordonné sa visite avec tous les acteurs de cette crise, et en particulier avec Joe Biden, qu'il a encore eu au téléphone hier. La France est toujours soupçonnée d'avoir un agenda caché, sans doute parce qu'on ne prête qu'aux riches. Ce n'est pas réellement surprenant, car il y a dans cette crise russo-ukrainienne une part de psychologie des hommes et des États qui est peut-être aussi importante que les données carrées de la géopolitique et des traités diplomatiques. Un sommet international, c'est aussi un choc des égos, et celui de Moscou n'y a pas fait exception.
Et que reproche-t-on à Emmanuel Macron ?
Les mots sont des pièges, Nicolas, et ils peuvent vite se transformer en malentendu ou en contresens. Prenons celui de désescalade, puisque c'était l'objectif numéro un d'Emmanuel Macron. Il y a eu des annonces contradictoires entre Français et Russes sur les promesses faites par Vladimir Poutine. Paris maintient que le président russe s'est engagé à ne pas laisser en Biélorussie les 30 000 soldats russes et leur matériel dit « offensif » qui s'y trouvent officiellement pour les manœuvres qui débutent aujourd'hui. On verra dans 10 jours si Poutine tient parole. Ça a son importance car les Occidentaux s'inquiètent de voir la Biélorussie supprimer à la fin du mois l'interdiction de stocker dans le pays des armes nucléaires. Autre mot piège, celui de « finlandisation ». Nous en parlions dans cette chronique début décembre. C'était alors une demande formulée par un proche du Kremlin. C'est aujourd'hui un reproche adressé à Emmanuel Macron.
Dites-nous, Pierre, de quoi s'agit-il ?
Alors la finlandisation, un terme qui ne plaît absolument pas aux Finlandais eux-mêmes, est un héritage de la guerre froide lorsque ce voisin de l'URSS avait été contraint de rester neutre entre l'Est et l'Ouest. Interrogé sur ce concept pour l'Ukraine, Emmanuel Macron a répondu que c'était effectivement une des options sur la table. Mais il a ajouté qu'on ne pouvait pas laisser l'Ukraine dans un no man's land sans souveraineté et sans sécurité. Mais la première partie de la phrase a fait le tour du monde et voilà le président français accusé de soutenir la finlandisation de l'Ukraine, ce qu'il a démenti formellement. Ces polémiques stériles révèlent deux choses. D'abord, la persistance d'un courant qui ne veut voir qu'une tête, celle des États-Unis. La seconde, c'est qu'il n'y aura pas de sortie de crise facile et que le succès ou l'échec de l'initiative du président français ne se verra que dans plusieurs semaines qui mettront les nerfs à rude épreuve. En attendant, Français, Allemands, Russes et Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui à Berlin dans le format baptisé Normandie. La diplomatie n'a pas encore dit son dernier mot.
Merci Pierre Aski. France Inter.